Maintenant, on va un peu parler de, d'édition, diffusion, c'est alors, ça.
C'est un peu la suite d'un débat ou d'une rencontre qu'on a fait hier avec des éditeurs lyonnais qui ont choisi de s'auto-éditer et de s'auto-distribuer surtout. Et donc, du coup, on voulait avoir un peu l'autre pendant, hein, qui est de passer par une structure qui distribue. Alors, je crois que c'est Obo qui va nous expliquer un peu son travail, quelle est la différence et quelle est et puis donc du coup on a aussi un éditeur avec nous qui lui passe par Obo si j'ai bien tout compris pour se distribuer. Voilà, vous allez nous expliquer comment ça fonctionne, comment vous fonctionnez dans ce système-là qui est pas le même que celui dont on a parlé hier.
Ça marche. Bah merci pour l'invitation. Donc je suis David de Obo. Voilà, on est une petite structure de diffusion qui existe depuis maintenant un an et demi. Et l'idée de cette structure, bon, elle s'inscrit, on va dire, dans la suite d'une autre structure qui existait avant, qui s'appelait Court Circuit, qui n'existe plus maintenant, et dont le projet était de permettre à un certain nombre de petits éditeurs militants, alternatifs ou libertaires ou autres, de pouvoir en fait avoir un accès à la librairie, on va dire traditionnelle, et permettre en fait à ces éditeurs-là de sortir un petit peu, on va dire, des cercles. Purement militant et trouver une porte de sortie, on va dire, une porte d'accès à d'autres lecteurs qui sont pas nécessairement toujours au courant, qui sont pas spécialement dans nos cercles ou autres. On représente une trentaine d'éditeurs. En parallèle, on travaille avec une structure donc de distribution. Alors, pour faire en gros la différence, hein, la diffusion, c'est l'aspect, on va dire, commercial. Faire circuler l'information, aller voir les libraires, leur présenter les nouveautés du catalogue des éditeurs. Et puis la partie distribution, par contre, c'est la partie vraiment logistique, c'est-à-dire c'est le distributeur qui s'occupe, qui gère les stocks, qui fait les envois aux librairies. Qui facture, c'est vraiment la partie logistique. Donc nous, en fait, on a une formule. Donc nous, on s'occupe vraiment Obo, c'est la partie diffusion. Donc on s'occupe de cet aspect commercial et en parallèle, donc on travaille avec un distributeur qui s'appelle Macassar et qui gère cette partie logistique. Voilà.
Alors toi, tu vas peut-être te présenter puis nous expliquer pourquoi tu as choisi d'avoir un intermédiaire et de pas aller démarcher toi-même avec ta petite valise les librairies de France et de Navarre et de Suisse, de Belgique, d'Allemagne et de partout.
Alors je m'appelle Nicolas, je m'occupe des éditions Libertalia depuis leur création donc en 2007. On s'est posé la question à un moment de s'occuper nous-mêmes de notre diffusion, mais pas de notre distribution. David vous a expliqué que la distribution c'était vraiment la partie la plus pénible, la plus fastidieuse du travail, donc faire des colis et surtout faire des factures et relancer les libraires qui n'ont pas payé dans les temps. Donc ça c'est particulièrement pénible, laborieux, fastidieux. On s'est demandé un temps si on n'avait pas s'occupé nous-mêmes de notre diffusion en visitant peut-être 60 à 100 points de vente en France à deux. Et puis on ne l'a pas fait, on est chez un diffuseur de livres commercial, parce qu'on n'est pas chez Obo Diffusion, on était chez Court Circuit, mais on s'est vendu au grand capital. On allait chez un diffuseur commercial qui a en fait, et c'est là que c'est pas inintéressant, une force de diffusion plus importante que celle de Obo Diffusion. Donc on a commencé l'édition avec un petit diffuseur, Court Circuit. On a grandi avec ce diffuseur et comme beaucoup d'éditeurs, quand ils ont un catalogue un peu étoffé, on est aller vers un plus gros diffuseur pour donner davantage de visibilité à nos titres. Voilà, donc il y a des avantages et des limites dans tout ça.
Alors, du coup, tu es tombé dans le grand capital. Mince. Non, mais alors, les avantages, parce que la question qu'on se pose toujours, c'est est-ce que le fait d'aller chez quelqu'un qui distribue, qui a un potentiel de distribution dans beaucoup de librairies, est-ce que les librairies vont quand même prendre les livres? Du coup, toi, est-ce que pour Libertalia, c'est ça le nom, ça a changé le volume de livres et vous avez touché des nouveaux lecteurs?
Oui, indéniablement. Ouais. Indéniablement, ça a changé beaucoup de choses, mais au bout du compte, plus de 13 ou 14 mois après être entré en diffusion chez Harmonia Mundi, qui est l'équivalent des Belles Lettres à peu près en termes de force de diffusion. Donc, parmi les éditeurs présents sur le salon du livre Libertalia, il y a effectivement des éditeurs autodiffusés. des éditeurs diffusés par Hobo Diffusion et des éditeurs diffusés par Harmonia ou Les Belles Lettres. Concrètement, on a davantage de visibilité, on vend plus de livres, mais on a aussi beaucoup plus de frais. De frais de stockage, de frais de facturation de retour. Donc on n'envoie pas la même quantité de livres en librairie au moment de la publication, mais on a bien plus de retours. Je pourrais donner un exemple très concret. Gérard Mordia, hier, a fait une conférence ici. On a publié un texte de Gérard Mordia. Tous les libraires se sont jetés sur le livre de Gérard Mordia. Mordia, connu, ça peut nous intéresser. On a eu quand même 900 retours qui sont facturés. Donc on a des frais que nous n'avions pas, on a des frais mensuels que nous n'avions pas à l'époque de court-circuit, parce que court-circuit ne facturait pas le stockage et ne facturait pas les retours, ce qui était une hérésie. Mais
du coup, ça veut dire que les librairies de stockage, c'est les librairies qui stockent les livres qui
non,
disent... c'est... non, c'est quoi
c'est le diffuseur qui stocke aux frais de l'éditeur les milliers et milliers d'ouvrages dont il dispose. Et on se... En termes logistiques, c'est pas très intéressant hein, comme discussion, mais en termes logistiques,
ah, ça m'intéresse.
Si, parce qu'on apprend quand même. C'est
parce qu'on ne connaît pas
comment ça fonctionne.
Alors, en termes logistiques, un livre stocké par un diffuseur commercial coûte 1 centime d'euro par mois. Ça semble peu,
oui.
Mais quand on a un fonds conséquent et 30 à 40 000 ouvrages en stock. Ça représente tout de suite 300 à 400 euros par mois de facturation de stockage. Ensuite, les retours sont facturés. C'est-à-dire que si, je vous donne un exemple très concret. On vient de rééditer un texte de Jack London qui s'appelle Construire un feu, traduit par Philippe Mortimer, l'animateur des éditions L'Insomniac. Ce livre-là, les libraires, évidemment, sont à la maison, c'est familier. C'est pas un livre sur l'histoire de l'anarchisme de 1789 à nos jours, qui est un livre moins évident pour un libraire de centre-ville ou pour un espace culturel contre lesquels on se bat parce qu'on considère que malheureusement ça ne sert à rien, ça ne touche pas grand monde. Les seuls qui peuvent vendre des bouquins dans ces zones-là sont ceux qui ont pignon sur rue et énormément de presse, donc François-Olivier Gisbert, Finkielkraut et quelques livres de cuisine et de bricolage, donc pas nous, clairement, pas nos bouquins. Donc nos bouquins vont dans ce type d'espace, mais on a des taux de retour qui sont de 97%. Ça veut dire que si on envoie dans les espaces Cultura de France 300 livres, on nous en retournera environ 270.
Et donc, après, et vous ?
Et nous, on va nous facturer ces retours-là. Le fait de renvoyer les livres coûte 22 centimes par ouvrage, donc on nous facture des retours. Vous imaginez que si on a 500 retours par mois à 22 centimes, ça fait tout de suite un peu plus de 100 euros par mois de facturation retour, plus les frais de stockage. Donc on est dans une course qui impose de vendre des livres, qui impose d'en faire. Et si je résume, c'est pas tout à fait la même échelle. Voilà.
Du coup, vous êtes rentré dans une sorte d'engrenage, finalement, à faire toujours plus pour essayer de que ça s'amortisse. Non, je caricature peut-être un peu, mais...
Non, mais tu caricatures
ça,
pas...
Ça accélère un peu...
Non, pas tout à fait, tu caricatures pas... Si un livre est mis en place en librairie à 1500 ou 1800 exemplaires, ce qui est énorme, mais si ce livre n'a pas de presse, on va avoir des centaines de retours et ce livre va nous coûter un peu d'argent. Enfin, voilà, c'est une discussion vaste, compliquée. Une structure de diffusion qui a 14 ou 15 représentants, c'est intéressant si le bouquin a de la presse. En termes logistiques, c'est une structure qui peut répondre à un best-seller. C'est-à-dire que Harmonia, par exemple, a su gérer le petit livre de Stéphane Hessel, Indignez-vous. Donc des millions d'exemplaires vendus, ils étaient capables d'approvisionner. Ce que ne peut pas nécessairement faire une plus petite structure. Pas des millions d'exemplaires. Une structure comme Hobo Diffusion, mais c'est plutôt à David d'en parler, peut gérer un succès à 3, 4, 5, 6, 7 000 exemplaires vendus, pas 100 000. Alors nous, on pense pas qu'on vendra 100 000 exemplaires d'un livre, même si on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Mais d'une façon générale, la différence entre les deux types de structures de diffusion tient davantage à la visibilité des livres, la visibilité initiale. Voilà, c'est vrai que nos livres sont présents dans presque toutes les librairies de France, mais souvent les libraires nous les retournent. S'ils ne les vendent pas, ils nous les retournent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça veut dire des tirages beaucoup plus importants. C'est pas une impression, on ne fait pas des tirages à 500, 1000 ou 1500 exemplaires, on fait des tirages initiaux, donc les premiers tirages de 2500 à 3000 exemplaires. Donc ça coûte plus cher à fabriquer. Vous avez compris la logique, elle est un peu pernicieuse, mais on fait partie des éditeurs libertaires qui ont une forte visibilité. Mais heureusement qu'à côté, on a nos boulots d'enseignants, de graphistes ou de correctrices qui nous permettent de vivre, parce que tout ceci ne permet pas de vivre de l'édition. Voilà.
Non, juste un petit complément. Enfin, effectivement, la différence entre Obo et par exemple une structure un peu plus grosse comme Harmonia ou les Ballades, c'est vraiment une logique en fait. Sans là, être critique particulièrement, mais il y a une logique plus industrielle. Effectivement, avec Harmonia, parce qu'effectivement, bah, ils placent plus de bouquins, donc ça demande d'augmenter aussi les tirages, et ça augmente effectivement les allers-retours, les flux. Nous, on est dans une structure un peu plus artisanale, on va dire.
Enfin, quasi familiale.
Un petit peu, ouais, c'est ça. Et effectivement, nous, on a des placements qui sont vachement plus faibles, mais ce qui ne veut pas dire non plus que finalement, on vend toujours moins de bouquins. C'est-à-dire que la logique, elle n'est pas la même. C'est-à-dire qu'au départ, on a des placements qui sont plus faibles. Après, si le bouquin, il marche pour un certain nombre de raisons, parce qu'il peut avoir de la presse aussi, il peut avoir des choses, finalement, ils peuvent monter les ventes, alors que des fois un gros placement, effectivement ce que disait Nicolas, c'est que il peut avoir un très bon placement à base et puis pour X raison le bouquin marche pas et finalement vous allez vous taper plein de retours, ce qui fait que des fois on peut vendre plus, bon c'est quand même assez rare, mais on peut vendre des fois plus que un gros diffuseur sur un titre en particulier, quoi. Voilà, c'est un petit
moi je trouvais intéressant de voir aussi la complexité qu'il y a entre vouloir diffuser des idées qui sont pas, qui ont pas beaucoup de portée dans la société dans laquelle on vit, ou aussi on sait qu'il y a des médias qui sont très forts, du coup qu'on a une certaine pensée. Tout à l'heure avec Chandorty, du coup on discutait sur l'angle de la littérature jeunesse qui amenait l'idée de bouquin libertaire par un autre biais, et du coup comment elle diffusait ses idées, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans. Et là on continue avec vous à discuter sur la complexité qu'il y a en fait de vouloir, je pense au bout du coup c'est vraiment soutenir soutenir des petits textes, des petits éditeurs, des auteurs qui sont peu de portée dans la société, et de le faire à une peut-être plus petite échelle aussi. C'est une autre pensée aussi de l'économie.
Bien sûr. Bon, après, le but, c'est plus on pourra toucher de gens. Enfin, on se limite pas non plus. Effectivement, là, pour l'instant, parce qu'on n'a pas aussi les moyens physiques de visiter plus de libraires. Après, on travaille quand même avec un réseau de une grosse centaine de libraires, 100, 150 libraires qui sont visités, tenus au courant régulièrement. Après, ce qui correspond aussi, on va dire, quand même au réseau un peu de la, entre guillemets, bonne librairie indépendante qu'on trouve en France, quoi. Parce qu'après, effectivement, il y a toutes les chaînes, Chapitre, bon, d'ailleurs, qui est en train d'exploser. Il y a d'ailleurs le modèle un peu industriel de la grosse librairie, là, est en train d'un petit peu d'exploser en ce moment. Donc, bon, après, est-ce que ça va profiter aux libraires indépendants? Peut-être d'une certaine mesure. Après, c'est pas dit non plus, parce que les choses sont plus compliquées que ça. Voilà, effectivement, après, l'idée générale, c'est de essayer de défendre ces éditeurs qui n'auraient pas spécialement accès après, ou enfin voilà, ces idées leur permettent d'être présentes.
Et du coup, pour Libertalia, j'imagine que vous avez un peu des critiques, peut-être dans le milieu, qui vous ont dit vous avez fait les mauvais compromis. Toi, comment tu vois les choses, là, 13 ou 14 mois après? Tu penses que vous avez pris la bonne décision? Ou est-ce que vous êtes prêt à faire machine arrière si ça marche pas, ça coûte trop cher?
Non, on fera pas machine arrière définitivement, ouais.
Parce que c'est profitable.
Parce qu'on ne peut pas perdre d'argent sur un livre, c'est impossible avec une force de diffusion pareille. C'est-à-dire que même si on a 900 retours, il y en a au moins 600, 700 ou 800 qui sont vendus, qui permettent de couvrir les frais d'illustration, de traduction parfois, et de fabrication. Ouais. Donc ensuite, on n'a pas beaucoup de critiques, non, hélas, on préférerait presque, tout simplement parce qu'un auteur, quel qu'il soit, préfère être présent dans 400 librairies que dans 100. Pour ça sous-entend passer dans une logique d'ordre capitaliste, très clairement, ça sous-entend accepter pour un éditeur une professionnalisation, parce qu'être chez un gros diffuseur, implicitement, ça veut dire pouvoir livrer des fichiers avec 6 mois d'avance, une couverture avec 6 mois d'avance, un plan presse avec 6 mois d'avance, des arguments de vente pour les commerciaux avec 6 mois d'avance, que nous ne faisions pas à l'époque où on travaillait avec Court-Circuit et David, déjà, qui travaillait avec Court-Circuit pour Court-Circuit, qui était le principal représentant. Donc on était beaucoup moins rigoureux beaucoup moins professionnel que désormais, que maintenant. Donc ça nous a servi d'une certaine façon, mais là on adore le papier, les bouquins, on aime diffuser ces idées-là. On a plein de projets pour 2014 et 2015. La vraie question, c'est de savoir si on tiendra à ce rythme-là, un rythme de quasiment un livre par mois. Je vous donne un exemple. On a changé d'échelle, certes, mais au 15 décembre, il faut qu'on verse 12 600 euros à l'imprimeur. Je vous ai bien dit qu'on ne pouvait pas financer de salaire ou quoi que ce soit. Bon, mais d'une certaine façon, en passant chez Harmonia, il y a quand même cet espoir, cette idée de pouvoir rémunérer convenablement le graphiste et au moins l'un des deux autres piliers de la maison d'édition. Moi, je suis enseignant, prof de français, j'ai pas l'intention d'arrêter d'être enseignant. Si Charlotte, qui est correctrice, pouvait gagner un peu de sous avec l'édition, ce serait pas mal, parce que ça prend un temps considérable, véritablement. On le voit pas, on l'imagine pas, mais il y a tout le travail autour de... Enfin, il s'agit pas simplement de faire un livre, de l'envoyer en librairie, il faut aussi le soutenir en direction de la presse. Donc ça demande beaucoup de temps avec des journalistes, beaucoup de temps d'échange. Je vous vois regarder l'heure, vous voulez qu'on abrège un peu bon.
Justement, on contrôle, mais tout va bien.
D'accord. Donc voilà, non, on fera pas machine arrière. On a pu se lancer dans des projets plus dispendieux. Lancer des traductions à 6 ou 7 000 euros, ce qu'on aurait eu du mal à faire avec notre précédente structure de diffusion. Très clairement. Parce que pour lancer une traduction à 6 ou 7 000 euros, avec un point mort, le point mort, c'est l'équilibre du livre. Le moment où le livre ne coûte plus rien, il faut en vendre un millier environ, quoi. Pour vendre un millier de livres, il faut partir d'une mise en place qui est élevée. On ne peut pas partir...
Pas toujours.
Avec, voilà.
Un millier, tu peux y accéder si ton livre...
Non mais c'est vrai, mais sur le mais non mais
David mais pas tout de suite, ça se fait pas effectivement non. Dans la même temporalité, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement chez Harmonia ou ailleurs, tu auras tout de suite les 1000 qui vont être mis en place, alors que nous, les 1000 ils vont se faire peut-être au bout de 3 4 5 6 mois, 1 an peut-être. Effectivement, et donc du coup, on n'est pas dans le même rapport. Effectivement, après quand tu as ton imprimeur à payer, tu as un traducteur à payer, je comprends les logiques quoi. Mais finalement le millier il est vendu à la fin. Pas toujours.
C'est un problème de fond de roulement. Il y a un problème de fond de roulement. Pour se lancer dans des projets ambitieux, des traductions notamment, il faut pouvoir les financer. Alors il y a plusieurs façons de financer la traduction. Avoir un mécène privé, le papy, la mamie qui est capable d'allonger 20 000 euros, ça existe dans l'édition, véritablement.
Si vous en connaissez, parce que pour Canus, ça pourrait nous intéresser aussi. Ouais.
Mais malheureusement, Libertaire n'a pas de mécène. Ensuite, il y a le mécénat public, le CNL notamment, pour des traductions. Oui. On peut avoir davantage de réserves sur le fait de demander de l'argent aux institutions. Nous, on en a de moins en moins. Je vous ai dit qu'on était vendu au grand capital, maintenant on demande des subventions. Pour l'instant, on demande encore des aides à la traduction seulement. Peut-être qu'on va passer aux aides à la fabrication. Donc voilà, peut-être que Libertalia perd son âme d'une certaine façon en ayant basculé chez un gros diffuseur, je n'en sais rien, mais...
Aide à la fabrication, tu peux expliquer ce
que c'est ? Une aide à la fabrication, c'est-à-dire que pour un livre, je vous donne un exemple très concret, le livre publié par La Fabrique sur Baudelaire, donc Walter Benjamin, qui est un auteur très prisé de nos jours, alors qu'il ne l'était pas il y a 10 ans, un livre de Walter Benjamin de plus de 1000 pages, préparé par Agamben. C'est un livre qui coûte une fortune et pour ça, La Fabrique a eu 25 000 euros de subvention pour la traduction et pour l'aide à la fabrication. Donc c'est un livre qui est vendu 30 euros, mais il leur suffit d'en vendre quelques centaines pour équilibrer. Et ces centaines-là, elles seront de toute façon achetées. Enfin, ces bouquins-là seront achetés par les bibliothèques universitaires, les bibliothèques municipales. Donc si Libertalia aujourd'hui décidait de se lancer dans un projet comme le Baudelaire de Benjamin, on coulerait. On coulerait parce qu'il y a trop de coûts de fabrication d'un livre de plus de 1000 pages et de traduction notamment. Voilà. Donc aide à la fabrication, c'est aide à la fabrication de l'objet. L'éditeur sollicite le CNL ou la région dans laquelle il est basé pour obtenir une aide. Aide à la traduction, c'est une aide qui est versée directement au traducteur. Et un traducteur, pour être bien payé, est payé à... enfin, un traducteur bien payé, c'est un traducteur payé à 20 ou 21 euros du feuillet, 1500 signes. Donc ça monte très 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 vite une traduction, ça coûte très cher une traduction. Donc nous, pendant longtemps, on a fonctionné avec des copains qui traduisaient au lance-pierre, qui traduisaient, on les payait chichement, on n'était pas en mesure de les payer convenablement. Donc en fait, on n'est pas dans le même rythme. Or l'édition, en principe, la fabrication de livres, c'est la lenteur. Nous, on est quand même pris dans une course, puisqu'on fait beaucoup de livres tous les ans. Donc la seule façon de remédier à cette course, cette quasi-précipitation, c'est d'avoir des moyens pour payer plus cher un traducteur qui rendra un boulot bien plus soigné, étant donné qu'il est 4 fois mieux payé, et donc qu'il a le temps de relire, d'améliorer. Voilà. Donc on tourne un peu en rond, grosse visibilité, mais toujours rien en caisse, et toujours la même inquiétude qu'avant, en fait. Sauf que... Bon, enfin non, bref.
Mais c'est que vas-y.
Non, non, David, à toi.
Et du coup, David, sur la structure de Hobo, c'est quoi comme... Y a des salariés ?
Pour l'instant, non. Après, effectivement, l'idée, c'est à terme d'avoir un ou deux salariés. Enfin, l'idée, ça serait deux, pour pouvoir travailler, on va dire, sereinement. Voilà. Et l'idée aussi, en tout cas, de Hobo... Enfin, effectivement, ce que disait Nicolas, bon, à l'époque du court-circuit, les choses se mettaient encore en place. Enfin, bon, ce qu'on aimerait aussi avec Hobo, c'est aussi aider d'une certaine façon un peu à la professionnalisation, entre guillemets, des éditeurs. Essayer, en tout cas, sans leur imposer... essayer quand même de cadrer un petit peu, parce que bon, c'est vrai que tous les éditeurs avec qui on travaille, par exemple, il n'y en a aucun qui se salarie ou qui peut se payer sur son travail d'éditeur. C'est tous des gens qui à côté, enfin voilà, ont d'autres activités, enfin travaillent pour vivre, et c'est des passionnés qui font du livre, voilà. Donc en tout cas, l'idée, c'est en tout cas d'accompagner aussi ces éditeurs là à essayer de pas nécessairement, enfin s'insérer dans le marché, mais bon, essayer en tout cas d'adopter un certain nombre de codes, pouvoir parce que en fait tout le monde en bénéficiera. Enfin, plus on vend de livres, plus nos idées circulent, plus les choses peuvent peut-être avancer, on va dire.
Et vous avez une structure, une idée, une scope, pour la structure d'Obo, c'est quoi?
C'est une SARL classique, on va dire. Voilà, la question s'est posée effectivement à un moment, une ASSO, une SCOP, une SARL, en fonction d'un certain nombre de choses. Bon, finalement, on a opté pour une SARL classique. Voilà.
Il y a un dilemme important dans l'édition qui œuvre en faveur de l'émancipation, c'est qu'on est pris dans une contradiction. On diffuse des idées tout en faisant du commerce.
Et on a envie qu'elle soit diffusée le plus possible, donc on est obligé de rentrer. Moi, je comprends très bien la démarche. Hier, on avait effectivement des éditeurs qui distribuaient eux-mêmes leurs livres. La démarche, elle est ce qu'elle est. Ils ont donc des limites. Vous avez une autre démarche, tous les deux. Je pense pas qu'il y en ait une qui soit mieux que l'autre. C'est juste qu'on a des objectifs différents et que moi, je reste d'accord avec l'idée que pas passer par le grand capital, c'est bien. Sauf que diffuser les idées à plus de gens, c'est bien aussi. Et comme les deux sont pas compatibles, du coup, il faut bien faire des compromis. Et...
Bah, disons, je pense qu'on partage les mêmes idées. Effectivement, oui. Par contre, c'est sur les moyens qu'on serait peut-être pas tout à fait d'accord. Et encore, bon, après, je jette pas la pierre aux éditeurs qui passent par des autres structures. Enfin, je comprends aussi les intérêts de chacun. Donc, voilà. Après, chacun fait comme il le sent et comme il considère que ça sera la meilleure façon d'obtenir les choses qu'il y a. Voilà.
On connaît beaucoup d'éditeurs, parce qu'il y en a plusieurs là dans le salon où nous sommes la maison des associations sur le plateau de la Croix-Rousse, mais des diffuseurs comme Hobo, est-ce qu'il y en a, vous êtes la seule structure comme ça? Parce que c'est un travail, du coup, vous n'êtes pas rémunéré, qui a l'air assez fastidieux, et du coup, moi, je tiens quand même à souligner tout le travail qui est fait non salarié. Du coup, bon, les personnes travaillent à côté. À côté, ont du coup des ressources pour. Ouais, je sais pas comment ils font, mais quand même, je trouve que des fois, on oublie en fait qu'on peut faire. Je sais pas comment je perds mes mots, mais du coup, il y a vraiment beaucoup d'énergie qui est déployée pour du coup faire vivre des petits éditeurs, diffuser des idées et tout ça sans gagner de la thune. Et je pense que c'est assez important, là, comme on passe sur Radio Canut, de souligner ça.
On n'a pas de salariés.
On peut aussi parler de Radio Canut, maintenant, on s'en fout, on peut parler les autres.
On bosse comme des malades, comme dit la technicienne, mais gratuitement.
Bah, il faut dire qu'on est aussi des passionnés et que il y a pas que l'argent qui nous motive, heureusement. Enfin, après, effectivement, on vit dans un monde marchand. Il faut un peu d'argent pour vivre, pour mener bien des projets. Donc, voilà, on espère à terme pouvoir trouver une sorte d'équilibre financier qui permette de vivre dignement de son travail, de pouvoir financer aussi d'autres projets, pourquoi pas. Mais après, effectivement, c'est pas l'argent le but premier. Le but, voilà, c'est on est des militants et on a envie de faire avancer, progresser l'idée.
Bon, pour terminer, peut-être nous donner le prochain livre qui va sortir, nous en parler un petit peu. On va parler un peu des livres et moins de la technique de distribution, peut-être.
Les prochains livres, on en fait 6 en 6 mois, donc.
Voilà.
Le prochain livre qui sortira au mois de janvier s'intitule Changer l'école. C'est un livre collectif coordonné par la revue Notre École.
Ah oui, la revue de la CNT.
Voilà.
Très bonne revue, je le dis. J'en lis des numéros. Plus maintenant, mais je respire, on va pas faire rentrer dans le débat.
Ensuite, on publie un bouquin sur la Commune de Paris de l'universitaire britannique Robert Tombs, qui est un livre intéressant qu'on a intitulé Paris, bivouac de la Révolution. C'est une phrase de Jules Vallès. Gros travail sur la Commune de Paris. Alors, il en existe beaucoup des livres sur la Commune, mais un livre d'universitaire britannique, ça n'existait pas. Les livres sur la Commune qu'on connaît sont des livres rédigés principalement par des Français. Là, c'est un regard extérieur, détaché et donc passionnant. Si on arrive à boucler notre correction, on publiera le premier roman de Traven qui s'intitule Les cueilleurs de coton, traduit de l'allemand, illustré. Il aurait dû paraître en novembre. Pour la première fois depuis qu'on est charmonnier, on a dû repousser un titre de 4 mois. Ensuite, on va faire un bouquin à Guillaume Goutte, qui est un proche camarade de David, sur les 20 ans de l'insurrection zapatiste et la construction d'une alternative concrète au capitalisme dans le sud Mexique. Un bouquin énorme qui s'intitule « Vivre et lutter, histoire politique des années 2000 », 1,5 million de signes, sur 10 ans de lutte, de mobilisation et de propositions concrètes, là encore, au mois de mai. Et puis un autre livre sur l'école et l'émancipation. Voilà pour le programme. Je crois que j'avais fait à peu près le tour du programme du premier semestre. On n'a pas bouclé tous ces livres encore. On a du boulot. Donc vous voyez que si...
Même si on est vendu au grand capital, on peut sortir des livres qui ont l'air quand même super intéressants. Parce que tous les titres que tu as dit, ça nous donne envie quand même.
Merci. Vous doutez bien que si le diffuseur écoute ça, je vais me faire tirer les oreilles. Vendu au grand capital.
Au petit capital.
Oui, c'est plutôt du petit capital, oui, en fait. Mais ouais.
Un petit mot pour finir, peut-être, de Hobo, si tu veux.
Ouais, je peux vous... Enfin, pareil, juste 2-3 titres qui me semblent intéressants, qui vont paraître par plusieurs de nos éditeurs. On a un texte inédit de Julio Cortázar, aux éditions CMDE. Julio Cortázar, grand auteur argentin qui vivait en exil en France. C'est un roman graphique, ça sort en ce moment. Et puis, je vous conseille aussi un ouvrage autour de Frida Kahlo, un ruban autour d'une bombe, une biographie textile de Frida Kahlo. L'idée, c'est de revoir la vie et l'œuvre de cet artiste à travers sa garde-robe et voir comment celle-ci constitue à la fois un questionnement identitaire, esthétique, mais aussi politique. Aux éditions Nada. Et puis, je vous invite à aller regarder sur le site de Hobo Diffusion. Il y a tout le fond, tout le catalogue, les nouveautés à paraître. On a un fond quand même de presque 800 titres. Voilà, et puis environ une centaine de nouveautés par an. Donc je ne vais pas en parler de toutes.
Donc Hobo, c'est H-O-B-O.
H-O-B-O, ouais, comme
les hobos aux États-Unis, là,
exactement.
Les pauvres.
Voilà, travailleurs itinérants qui utilisaient le rail pour voyager.
Ouais. Exactement. Merci d'être venu parler de vos pratiques. Et puis, vous restez toujours à l'écoute de Radio Canut. Il nous reste encore une demi-heure d'antenne en direct de ce salon des éditions libertaires. Une petite pause musicale et après,
impressionnant.
On a un autre débat, une autre invitée.
Bientôt.
Merci. demi-mondain en demi-teinte. J'étreins sans trêve le glaive de mes rêves. Je me prends en photo pour pas me perdre de vue. Chantier en construction, sans fondation. Chantier en construction. Dessins abîmés, cartoons de série B, j'appreuve, vacarme, sarcasme. Le garçon du miroir s'en est allé. La seule façon de le rejoindre est d'abandonner le passé et construire la suite. Logique du temps, comprendre les contretemps. Fiction réelle ou réel imaginaire, petit à petit construction de chimère. Je ne pouvais pas partir comme ça, avec cette sale impression de plus être là. J'ai